بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شفاء الإسلام نغماسيون الله رب العزة كي ندن لبوسيبيليتي de nous réunir pour parler de son dîn et de parler d'un point essentiel du aqida, la croyance du musulman, ce sont les signes de la fin des temps. On avait développé pas mal de petits signes de qiyama, on avait ensuite commencé les grands signes de qiyama, on avait passé en revue la venue de Imam Mahdi, la sortie de Ad-Dajjal, l'émergence des Gog et Magog, le retour de Isa alayhi salam. Il nous restait à voir les quelques grands signes qui doivent avoir lieu après le décès de Isa alayhi salam jusqu'au Qiyam. Il me semble qu'en conclusion, lorsqu'on avait clôturé le chapitre sur le retour de Jésus, le retour de Isa alayhi salam, on avait cité, si je ne me trompe pas, c'était l'avis d'un savant ou c'était une opinion mawquf qui disait qu'il n'y a pas une époque où il y aura autant de baraka, de bénédiction que durant les années où Isa alayhi salam sera sur ce dunya, mais il n'y aura pas pire moment pour l'humanité que cette époque après le décès de Isa alayhi salam, parce qu'il y aura un déclin, il y aura un déclin total jusqu'à ce que l'humanité va retourner au jahiliya, à l'époque de l'ignorance, où les gens vont recommencer à adorer des idoles, à faire le culte des pierres. Donc on va reprendre à partir de ce moment-là aujourd'hui, Inch'Allah Azza wa Jal. Petite parenthèse de 10 minutes, parce que ça nous est venu à l'esprit aujourd'hui, plutôt hier, que, alhamdoulilah, nous sommes à la fin du mois de Dhul-Qa'ada. Il me semble qu'on va chercher la lune demain soir. On est le 28e apparemment, sur le tableau c'est écrit, hein, c'est ça. Donc demain on cherche la lune de Dhul-Hijjah, et donc nous allons, Inch'Allah, demain soir ou après-demain, donc aborder une décade extrêmement importante. Et il y a un petit fascicule qui avait été écrit par un savant, un cheikh, très bien fait d'ailleurs, alhamdoulilah. Subhanallah, on avait récupéré ça il y a peut-être 15 ans, hein, dans une masjid, et à chaque fois on dit, ben un jour il faudra l'utiliser, et là, subhanallah, on l'avait bien ramassé, et après 15 ans, il y a le faïda. Et là, nous voyons le baraka, la bénédiction du ilm, de la connaissance religieuse. À une personne, je ne connais même pas le nom de ce cheikh d'ailleurs, je ne le connais pas, il avait écrit donc ce fascicule concernant les vertus de la première décade. Il a écrit, Allah seul le sait, il y a 20 ans, il y a 25 ans, il a fait imprimer, il a dû y avoir différentes impressions, et voilà, 15 ans après, une personne qui l'utilise pour un dhikr, pour faire un rappel, d'accord, et la personne reçoit des récompenses sans, voilà, yashur, sans qu'elle ne se rende compte qu'elle est en train d'obtenir des hasanat. Ça, c'est vraiment le baraka, la bénédiction qu'il y a dans la science religieuse. Franchement, si on peut s'imprégner de la connaissance religieuse et propager, à chaque fois qu'il y aura quelqu'un qui va mettre en pratique un nasiha, un conseil qu'on aura donné, ou une personne qui va rester éloignée d'un haram parce qu'on l'a mise en garde contre ce haram, subhanallah, c'est comme une sadaqa jariya, comme ici on appelle waqaf, d'accord, quelque chose qui va alimenter notre livret de compte en permanence. C'est pour ça, parenthèse à la parenthèse, il est dit que parmi les choses qui seront profitables aux défunts, waladun salihun yad'u la, un enfant pieux qui va invoquer, qui va demander à Allah doua pour son papa qui est décédé, ou tout simplement un enfant qui va faire de bonnes actions. Quand moi, papa, je meurs, si mes enfants, subhanallah, hein, je les ai donné une bonne tarbiyah, une bonne éducation, et qu'ils vont faire de bonnes actions, moi, décédé, même après 10 ans, 15 ans, 20 ans sous la terre, je continue à profiter des bonnes actions de mes enfants parce que je suis à la base de leur tarbiyah, de leur éducation. Le plus beau cadeau qu'un homme puisse avoir de la part d'Allah Azza wa Jal, bien sûr, on parle pas du côté spirituel, après le iman, après la santé, ainsi de suite, c'est une épouse vertueuse. Et juste après l'épouse vertueuse, c'est des enfants pieux. Et les deux sont liés. Parce que quand on a l'épouse Zawjatun Saliha, l'épouse vertueuse, nous savons déjà qu'alhamdulillah, c'est une personne qui va fixer les bases de l'éducation à la maison. Et donc, mashallah, les enfants, lorsqu'ils vont grandir, chaque étape, hein, de leur existence, que la petite enfance, la préadolescence, l'adolescence, ils vont avoir, alhamdulillah, les bons conseils, le cadre idéal pour combiné, surtout dans une époque de laquelle nous vivons, pour faire la synthèse entre le message qu'ils vont écouter, ils vont avaler, je pourrais même dire, dans le dunya, dans la vie du dunya, à travers les journées passées, d'accord, sur les bancs de l'école, où ils vont entendre certaines choses qui vont parfois à l'encontre de nos aqaïd, de nos croyances, et le soir, les moments passés en famille à la maison, où le papa et la maman, ils vont avoir un discours qui va apaiser un petit peu son cœur, qui va recadrer un petit peu, le rappeler c'est quoi les croyances du musulman. Ça, c'est vraiment, mes chers frères, la priorité des priorités. Une épouse vertueuse et essayer de donner la meilleure éducation possible à nos enfants. La quatrième parenthèse, on avait reçu, alhamdulillah, il y a quelques jours, une délégation donc du ministère des Affaires étrangères saoudienne venue faire les visas pour les Hujjaj de la Réunion et des îles Mayotte. Alhamdulillah, 660 personnes qui ont fait le Hajj, mashallah. Donc plus de 400 des îles Mayotte, de Mayotte, ça ne dit pas les îles Mayotte, de Mayotte, et à peu près 180 officiellement de la Réunion, plus 50 qui vont par notre canal. Donc pour la Réunion, mashallah, 180 et 50, ça fait 230 hujjaj, 230 invités d'Allah Azza wa Jal, et Mayotte, c'est à peu près 420 ou 430, mashallah. Qu'Allah Rabbul Izzah accepte le Hajj et les efforts de ces personnes qui ont œuvré pour que ces démarches se déroulent correctement. Là où on voulait en venir, dans la délégation, donc il y a toujours un chef de délégation, c'est le diplomate, c'est un vieux, un ancien, c'était quelqu'un, mashallah, de Taïf. Donc il y a quelque chose qui m'a touché, c'est quelqu'un de Taïf, et je me suis dit que, subhanallah, cette personne-là, si son peuple, vous avez compris ce que je veux dire? Celui qui sourit a compris. Un, deux. Non, il fait la tête, qu'il est fatigué. Enseigne les petits-enfants, l'école c'est dur. Non, je me suis dit que si cette personne-là, si son peuple n'avait pas reçu les doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce bonhomme-là, il ne se serait pas déplacé de sa montagne de Taïf pour venir donner des visas pour des hujjahs de la Réunion de Mayotte. Si lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam, lorsqu'il était expulsé du village de Taïf par les Banu, Thaqif, par les Banu Thaqif, si le prophète alayhi salatu wa sallam, lorsqu'il avait été expulsé, insulté, presque humilié, agressé physiquement, on connaît les textes de Sira qui décrivent les scènes de violence, na'ouz billah, des jeunes de Taïf, lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam avait eu la possibilité de la part de son Seigneur de se venger de ces gens, de les écraser bayn al-akhshabayn, entre les deux montagnes. Taïf est une ville montagneuse, un peu comme Silaos, un peu comme ça, mais paraît en moins beau. Et donc si le prophète alayhi salatu wa sallam avait accepté cette proposition, il se serait vengé. Il aurait eu raison, parce qu'ils ont fait couler le sang d'un prophète, cette personne-là ne serait pas là. Ou alors, il y aurait eu d'autres générations après, mais qui seraient dans l'égarement total, parce qu'ils auraient été maudits par le messager d'Allah, Azza wa Jal, maudits par Allah, maudits par l'ange, Jibril alayhi salam, maudits par l'ange gardien des djibals, des montagnes également. Mais le prophète alayhi salat wa salam a fait preuve de rahma, de clémence, de bénédiction, de bonté, d'humanisme. Il a dit, oh Allah, donne la guidée aux futures générations. Que les enfants qui vont venir après, eux, ils obtiennent la hidayah. Et en commentaire, les ulama de Sira disent que, voyez, Taif n'a pas été conquis. Il n'y a pas eu une guerre. Ce n'est pas comme Khaybar, par exemple. Non, Taif, les Ahl Taif se sont convertis à l'islam. C'est pour concrétiser le dua de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas que la ville de Taif est tombée dans les mains des musulmans. Non, il n'y a pas eu Fath Taif. Dans aucun livre, on ne parle pas de conquête de Taif. Les Ahl Taif, les Taïfiens, si on pourrait dire, ils ont accepté l'islam d'eux-mêmes. C'était le dua de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, maintenant, on a quelqu'un qui sort de ce village et qui vient et qui nous délivre le visa, qui nous permet, bi-idhnillah, d'accomplir le Hajj. Ça, c'est tahqiq. Ça, c'est la concrétisation du doua de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On apprend énormément de choses de ces gens. Je me rappelle qu'il y avait d'autres diplomates qui étaient venus il y a quelques années. On les avait amenés à Elbourg. Tout le monde sait c'est où Elbourg? Mohammed, vous savez c'est où Elbourg? C'est ça l'Asie. Notre frère Mohammed qui nous vient de métropole, il est installé depuis pas longtemps. Il enseigne les mathématiques au lycée de Belle-Pierre. C'est un costaud pour les classes de prépa. D'accord. Donc nous on a fait L, on avait deux moyennes en maths, donc on n'est pas le même niveau, d'accord? Inch'Allah. Et grand fan de Al-Kawthar et de Nadwi, qu'Allah l'accepte, Inch'Allah. Donc, on était à Elbourg, dans un kiosque près d'un petit ruisseau. Même petit ruisseau en période de sécheresse, hein, en fin d'hiver, il n'y avait quasiment pas d'eau qui coulait. Ils étaient ébahis, épatés par la beauté du paysage et ils ont commencé à parler donc, des hadiths. Ils avaient, alhamdoulilah, pas mal de ilm, de connaissances. Et là, il m'avait dit une phrase qui renforce la foi. On n'a pas besoin de ces phrases-là. Mais il y a des fois où quelqu'un de votre vie vous dit une petite parole qui vous donne conviction que subhanallah, subhanallah, que Allahu Akbar, que tu comprends ton Allahu Akbar, qu'Allah vraiment il est ajib, il est magnifique, il est grand. Il dit que subhanallah, dit qu'on a le prophète alayhi salat wa salam, toujours on reste avec Taïf, lorsqu'il a quitté Taïf après l'épisode, vraiment, c'était un cauchemar Taïf. Hein, c'était les moments les plus durs que le prophète a vécu avec Uhud. Lorsque l'épisode de Taïf était terminé, le prophète alayhi salat wa salam avait juré par Allah avec les Makkis, avec les Mikwas, il avait juré par Allah que ce dîn se propagera dans le monde entier, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et les Mikwas se sont moqués de lui. Pourquoi? Ils lui ont dit que mais il ne comprend pas. Est-ce que c'était pas une leçon suffisante? Il a dit, il pense que ce dîn va se propager dans le monde entier. Il a vu que dans son propre qawm, au sein de son propre peuple, l'islam n'arrive pas à se propager. Il a essayé de sortir de Mecca. Il y a eu un refus total. Il y a eu un refus à 100%. Et là, il pense au nord, au sud, l'occident, l'orient. Mais il ne comprendra pas. Il ne comprendra jamais. Le prophète a dit, je jure par Allah que ce dîn va se propager. Et là, la personne m'a dit, vous voyez, là on est dans une île, sur un petit caillou dans l'océan Indien. On ne savait même pas que ce pays existait. On est là, on est en train de parler du dîn d'Allah, on est en train de parler des hadiths de notre prophète alayhi salatu wassalam. Tout ça c'est tahqiq, la concrétisation, l'acceptation des doigts de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'était la première leçon. La deuxième leçon, cette personne donc qui s'appelait Abdullah m'expliquait, me disait que lorsqu'il s'agit d'éducation pour ses enfants, lorsqu'il s'agit d'inscrire ses enfants dans des écoles où, bien sûr, ils habitent à Riyad, de ces pays, il y a l'enseignement classique et l'enseignement religieux. Il dit qu'il n'hésite pas à payer, à mettre le plus gros budget possible pour avoir les meilleures écoles. Parce qu'il m'a dit qu'il n'y a rien de plus important que de donner une bonne éducation et une bonne instruction aux enfants. Il m'a dit qu'il préfère 1000 fois mettre de l'argent. Il m'a dit qu'il a tellement mis d'argent dans les écoles privées qu'avec ça, il aurait pu acheter une maison ou un immeuble pour eux. Ils auraient des loyers, des rentes. Après sa mort, ils auraient été financièrement, ils auraient été plus à l'aise. Mais il dit que pour lui, le plus important, ce n'était pas de leur léguer du matériel. Le plus important, c'était de leur donner la meilleure éducation, ça c'est à la maison, le tarbiyah, et la meilleure instruction possible, afin qu'ils grandissent avec ces bases-là, Inch'Allah. Donc ça, c'est pas énorme ce qu'il a dit, hein, mais ça m'a interpellé. Je me suis dit que, subhanallah, effectivement, ça doit être la priorité de n'importe quel parent. Avant de penser à développer, je ne sais pas, notre travail, ou avoir un meilleur salaire, ou trouver des solutions pour vivre dans plus de confort, il faut vraiment se faire du souci, même si l'enfant est encore tout petit, ou il a 7 ans, 8 ans, 9 ans, ou il est un préadolescent ou adolescent, on doit vraiment avoir ce fikr, ce souci, comment est-ce qu'on peut donner le meilleur tarbiya possible à nos enfants. Et en plus, à l'époque de laquelle nous vivons, Allah musta'an, ça devient de plus en plus difficile, de plus en plus compliqué. Qu'Allah nous aide et protège nos enfants. Allahumma amin. Donc, tout ça, on ferme les quatre parenthèses pour revenir à ce fascicule qui a été donc imprimé concernant la première décade de Dhul-Hijjah. On se rend compte que malheureusement, on se focalise parfois sur des événements qui sont en fait des non-événements, des dates qui ne représentent en fait pas grand-chose. Et le côté pervers de la chose, c'est qu'on oublie d'autres points qui sont extrêmement importants. Je vous donne un exemple, hein. Après on reviendra sur l'histoire de date, d'accord ? Nous voyons parfois des gens après la salat, on a déjà dit au moins 2 fois, des gens après les prières, parfois, ils font certains azkar, d'accord ? Ils vont mettre les mains sur le front, les doigts, il y a nourou, ils soufflent et tout. On demande, c'est les sources. Il dit non, c'est tel grand bouzouk a fait, tel homme pieux a fait ça et c'est profitable. Il dit ok. Mais le problème c'est quoi? C'est que cette personne va mettre en pratique ses azkar, d'accord? Il n'y a rien de mauvais, il y a un nourou, bon, on va dire que dans le fond, il n'y a rien de mauvais, mais ça ne remonte pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le côté pervers, et vous voyez toujours, dans la sunna, il y a un nour. Et dans ce qu'on apporte, il y a toujours quelque chose d'obscur. L'obscurité dedans, c'est quoi? C'est que ces personnes qui vont faire d'autres types de adhkar et tout, qui ne sont pas conformes à la sunna, mais ils vont passer à côté des adhkar qui sont masnoun. Et on avait expliqué au moins deux fois dans cette même assemblée, qu'est-ce qu'on doit lire après la salat. Si quelqu'un voulait vraiment lire tous les adhkar que notre prophète alayhi salat wa salam lisait après les salats, il resterait 10 minutes assis. Il resterait au moins 10 minutes assis à faire ses adhkar. Et ça serait tellement profitable. Dites-moi, est-ce qu'il y a une action qui nous apporte plus de bénéfices, plus de récompenses et plus de nour pour notre iman, notre foi, que les actions qui ont été pratiquées par le prophète alayhi salat wa salam régulièrement, sans le moindre doute? Bala. Et le côté pervers, c'est que j'ai entendu qu'il y a un tel qui a dit il faut faire ci, il faut faire ça, allez, je mets en pratique et je zappe la sunna. Allah musta'an. Combien de personnes lisent Ayatul Kursi après chaque salat? Combien de personnes lisent Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas après chaque salat? Là, on a juste résumé les sourates, les chapitres à lire. Alors qu'on vit dans une époque pourrie, on vit dans une île où il y a de gros problèmes. Vous voyez le nombre de sachets qu'il y a dans les carrefours en ce moment? Je vous donne le nom des rues les plus fréquentées. Le nombre de sihr, le nombre de sorcellerie, les quantités de, comme on dit ici, jadou, il y a partout. Mais on n'a pas besoin de lire pour se protéger. Quand est-ce qu'on se protège? Il faut que quelqu'un soit atteint pour chercher le remède. Yani, ces adhkar, ce sont des sources de récompense, oui, mais le kamal, la perfection de la prophétie, de la sunna prophétique, c'est que c'est quelque chose qui te sera profitable, qui te rapproche d'Allah, qui augmente ton iman, qui protège ta foi et qui te protège toi physiquement, ton intégrité. Ça, c'est la baraka qu'il y a dans la sunna. Et les adhkar qui viennent avec, subhanallah. Donc voilà, on a un namoudaj, un exemple de pratique, d'accord, qu'on a jugé correct, bon, dans lequel il y a un profit, mais en finalité, on passe à côté de ce qui est plus important. Concernant les périodes de l'année, malheureusement, on constate qu'on ne donne pas assez d'importance à la première décade de Dhul-Hijjah. Alors que cette première décade de Dhul-Hijjah, mes chers frères en islam, c'est quelque chose de capital. Autant on insiste sur le Ramadan, on devrait insister encore plus sur le mois de, sur la décade de Dhul-Hijjah. Il y a même un masla, je ne sais pas si on aura le temps de le citer, il y a divergence d'opinion, ikhtilaf, entre les savants sur le fait de savoir qu'est-ce qui est mieux, les 10 Dhul-Hijjah ou la dernière décade de Ramadan. Vous vous rendez compte? Il y a même des savants qui comparent la décade de Dhul-Hijjah avec la dernière décade de Ramadan. Donc il y a différentes approches. Et le qawl rajih, l'opinion qui ressemble, salam wa barakatuh. La synthèse, c'est quoi? Ils disent que les nuits de la dernière décade de Ramadan valent beaucoup plus que les nuits de la première décade de Dhul-Hijjah. Parce que dans la dernière décade de Ramadan, il y a la nuit du destin, l'Ayatul Qadr. Mais les journées, retenez bien, ça c'est l'opinion de Taymiyyah, rahimahullah également, mais les journées de la première décade de Dhul-Hijjah ont plus de valeur, c'est-à-dire nous apportent plus de hasanat, de récompenses, que les 10, oula, je me retrouve, que les 10 journées, les 10 matinées de la dernière décade de Ramadan, parce que dedans, dans cette décade-là, il y a Yom al-Nahr et il y a Yom al-Arafat. Et ce sont deux jours exceptionnels qui sont uniques dans l'année. Donc le problème, il faut tirer la sonnette d'alarme, parce que de nos jours, on se focalise, quand on parle du 27e Rajab, c'est la fiesta, là c'est Mi'raj. C'est comme si que le prophète sallallahu alayhi wa sallam refaisait Mi'raj tous les ans. Yahi, le prophète a fait le voyage nocturne une fois dans sa vie. Bas, khalas. Il n'y a pas eu un sahaba qui est venu, qui a fait il a donné l'importance, il faut parler de ça. Ya akhi, khalas, marra wahida, bas. Maintenant, si on a besoin de comprendre, on a besoin d'étudier, on a besoin de connaître kayfiyat at-tashri', comment est-ce que la salah nous a été accordée, là oui, mimbab dhikra, rappel, oui. Mais vous voyez, comme je vous dis, quand on se dit que non, il y a un bien à se focaliser sur ces événements, parce que ça va construire le côté culturel du musulman, le charsiya, la personnalité du musulman sera axée sur différents événements. Je conçois. Je conçois également qu'on a donné de l'importance à une époque où il y avait les premiers musulmans arrivés ici, où ils étaient un peu en perte d'identité, il fallait refixer, c'est comme si vous mettez plusieurs points de superglu au lieu de deux points, pour que vraiment ils retrouvent un petit peu leur valeur spirituelle. D'accord. Donc, yani, il y a quelque chose qui a été façonné, mais le côté pervers de la chose, c'est que, ben voilà, on passe à côté d'événements très importants. La première décade de Dhul-Hijjah, mes chers frères, on revient à l'essentiel, elle est aussi importante, on doit donner autant d'importance que quand on est, là c'est comme si qu'on était 28e Sha'ban. Comme si qu'on était le 27e, le 28 du mois de Sha'ban, et que nous savons que le Ramadan va commencer dans deux jours, on est dans un état spirituel, on se prépare, on a déjà l'intention, je vais faire ça, je vais préparer comme ça, je vais organiser mes nuits de ibadah, de qiyamul layl, de tahajjud, de dhikrullah, de lecture du Qur'an, yani, on sait qu'il y a un effort à produire. Mais les pieux prédécesseurs, à la veille de la première décade de Dhul-Hijjah, ils faisaient les mêmes efforts. Ils savaient que c'est une période où, comme le stipule le hadith, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dit, hadith 2, Ibn Abbas, radiallahu anhu ma'ani nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, قال, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha, ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam, yani ayyamu al-ashr. Il n'y a pas une période de l'année, il n'y a pas un jour de l'année où les actions sont aussi aimées par Allah que ces jours-ci, c'est-à-dire les 10 jours de Dhul-Hijjah. Yani, les termes utilisés par le prophète alayhi salat wa salam sont des termes très forts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une période de l'année où Allah aime autant voir le musulman, le croyant, accomplir de bonnes actions, de bonnes œuvres. Donc, qu'est-ce qu'on doit répondre par rapport à ça? On a cette information qu'Allah Rabbul Izzah est très fier de voir les croyants faire des actes d'adoration pendant la première décade de Dhul-Hijjah. Quelle doit être ma réponse maintenant? Ma réponse, c'est les efforts. Je dois m'efforcer maintenant de répondre présent. Et en introduction, subhanallah, ce cheikh, il disait que le musulman, le musulman a besoin de rappel. Il a besoin de rappel, il a besoin de se rappeler surtout de la clémence de notre Seigneur. Lorsqu'on parle de la rahma, la clémence d'Allah, on va citer plein de clémences. Qu'Allah est clément par rapport à telle chose, il donne la santé, il a pitié de nous. Ou alors, il y a même des gens qui se prosternent devant autre qu'Allah, mais Allah leur accorde la subsistance, la santé. Tout ça, c'est des preuves de rahma. Mais parmi les preuves de la rahma, parmi les preuves de la bénédiction d'Allah Azza wa Jal, il y a le fait qu'Allah Rabbul Izzah a comblé cette umma par des périodes de l'année où on peut se rapprocher de lui, où on peut combler les erreurs qu'on a accompli durant toute l'année. Il dit une parole qui est magnifique. Là, on est en plein dans le tazkiya, dans la purification intérieure. Il dit que al-aulad wal-amwal wal-shahawat, ce sont trois choses qui nous éloignent d'Allah. La famille, mais pas dans le mauvais sens, parce que il y a des épreuves qui sont de bonnes épreuves. On a bluukum bil-sharri wal-khayri ou bil-khayri wal-sharri. Bil-sharri wal-khayri fitna. Parfois, Allah vous donne quelque chose de positif, de bien, qui est un bien pour toi, mais c'est en même temps une épreuve. La famille, parfois, peut être une épreuve. Al-amwal, sans le moindre doute, les biens. Les biens, le fait de al-hakumut takathur, al-takathur, la cupidité, toujours chercher à gagner plus. Lorsque hubbud dunya, l'amour de ce monde, entre dans les cœurs, ce sont des choses qui nous éloignent d'Allah. Et les shahawat, les pulsions, l'envie de faire des péchés, les passions, le nafs, le fait d'écouter les waswasa, les insufflations du diable de Shaitan. Elle dit tout ça, ça pèse sur le cœur du croyant et ça l'éloigne d'Allah. Ce qui fait que la personne il fait preuve de takasul. C'est-à-dire la personne n'arrive pas à accomplir de bonnes actions. Lorsqu'à chaque fois que vous avez envie de quelque chose, vous avez la possibilité de choisir entre le bien et le mal, et qu'on fait le mauvais choix, on choisit le mal, réalisez que vous avez diminué votre iman. Qu'on réalise que nous avons diminué notre iman. Parce que les ulama aqidah disent al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bil-ta'a wa yanqus bil-ma'asiyah. La foi, c'est quelque chose qui augmente ou qui diminue. La foi, c'est pas comme, je sais pas, moi, vous mettez 50 euros d'essence, si tu roules pas pendant 20 jours, ça reste pareil. Non. La foi, c'est quelque chose que soit elle augmente, soit elle diminue, elle ne stagne pas, elle ne reste pas au même niveau. C'est-à-dire que maintenant, à chaque fois où j'ai envie de faire un péché, je le fais, contrairement à celui qui fait par inadvertance. Si on fait par oubli, Allah pardonne. Et Allah est Ghafoor Rahim. Rabbana la tu'akhidna in aw Les erreurs, Allah pardonne. Là, je parle des péchés que tu accomplis délibérément. La possibilité de choisir entre le bien et le mal, et on choisit le mal. Chaque fois qu'on fait un péché, la foi diminue. Et quand la foi diminue, on s'éloigne d'Allah. L'amour d'Allah sort peu à peu de nos cœurs. Et on s'éloigne du Jannah aussi. On s'éloigne également du paradis. Donc le savant dit que voilà, à force de rester dans les fitna, on a de moins en moins de motivation pour accomplir de bonnes actions. Première conséquence de ces péchés ou du fait que les biens de ce monde et ces fitna sont entrés dans nos cœurs. Deuxième conséquence, on a du mal à sabr anil muharramat. On a du mal à rester éloigné des harams. C'est-à-dire, quand vous entrez dans le cercle vicieux du haram, si vous y avez mis un pied et que vous n'avez pas demandé tawbatun nasuha, un repentir sincère, en regrettant le péché, vous pouvez être quasiment sûr que dans quelques instants ou dans quelques jours, vous allez faire un deuxième pas. Et ensuite un troisième, et puis ça va être la dégringolade. La personne va entrer de plein fouet dans le péché jusqu'à devenir un fasiq. Donc le fait que nous avons l'attachement au bien de ce monde et le fait qu'on écoute nos pulsions, qu'on a envie de faire quelque chose, tout ça, ça diminue notre motivation pour accomplir de bonnes actions. Ça diminue notre possibilité de résister au haram, à dire non au haram, alors que ça, c'est le propre de l'homme. Al-amana. C'est le propre de l'être humain. C'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça en philosophie? Nour, fait-elle ou? Alors? Allez, non, c'est longtemps, mais moi je me souviens, tu dois te souvenir. 8 heures de philo par semaine quand même. Hein? Alors, comment on appelle encore la possibilité de choisir? Le libre arbitre. Remise à niveau. D'accord? Le libre arbitre. Ça, c'est quelque chose qui est propre à insan, ça. L'être humain. Les malaïkas, ils n'ont pas le libre arbitre. Les animaux n'ont pas de libre arbitre. L'être humain, il choisit entre le bien et le mal. C'est le propre, c'est l'essence même de l'homme que de pouvoir dire non au mal. Il y avait un philosophe qui disait que philosopher, c'est dire non. Comment il s'appelle? Yamachaïr. Alain. C'est pas Flelou, t'as le bouc de lunettes là, c'est un autre. Philosopher, c'est dire non. Moi, je dirais, être mu'min, être croyant, c'est pouvoir dire non. Pouvoir dire non aux pulsions, pouvoir dire non aux nafs, pouvoir dire non à Iblis dans ses waswasa, et rester dans le droit chemin. C'est ça le taqwa. An taj'ala baynaka wa bayna Allah hijab. Mettez une frontière. Faites en sorte que jamais on se met dans une situation où on est dans la désobéissance de notre Seigneur. C'est le but de notre vie. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. L'adoration d'Allah. Ibadah, c'est quoi? Fi'lu ta'at wa tarku al muharramat. Faire les bonnes actions tout en délaissant les péchés. Autrement, on n'est pas des croyants soumis. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, théoriquement, c'est le propre de insan, de l'être humain, de pouvoir dire non. Mais comme ces pulsions, tout ça, on les a intégrées, on n'arrive pas à prendre de la distance avec nos péchés, ben du coup, on est faible face au haram. Et on n'arrive pas à dire non lorsqu'on est exposé au haram. Et ensuite, il dit, mais n'oublions jamais qu'au-dessus de nous, notre Seigneur est clément et miséricordieux. On peut se demander, à l'époque des Sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, vu la qualité de leurs actions, de leur ibada, vu le niveau de leur vie spirituelle, une nuit qui vaut 80 années de ibada, est-ce qu'ils en avaient vraiment besoin? Khayrun min alfi shahr. Ils étaient au top, subhanallah. Mais là, on se rend compte que, subhanallah, ça leur a été profitable. Ils auront des grades de plus en plus élevés. Mais pour nous, maintenant, nous sommes les preneurs de ces vertus. Parce que s'il n'y avait pas la nuit du destin, s'il n'y avait pas la première décade de Dhul-Hijjah, s'il n'y avait pas le saum, le carême, les jeûnes de Shawwal, s'il n'y avait pas le jeûne du Ashura, ben on serait bien embêté. On serait bien embêté. Notre bilan comptable serait très 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 négatif. Heureusement, Allah Rabbul Izza nous a gratifié de ses bienfaits, mes chers frères. Donc en conclusion, il dit, malgré cela, malgré ce constat alarmant concernant notre éloignement du dîn d'Allah Azza wa Jal, walakin, très belle phrase, walakin yabqa al-amal fi afwillahi wa rahmati wa tawfiqihi kabira. Jusqu'à la fin de la citation, c'est long. Il dit, mais il reste l'espoir. Malgré notre éloignement du dîn, on a encore l'espoir. L'espoir en notre Seigneur. Parce qu'Allah est le Rahman, le Rahim. Allah est tellement clément que même s'il voit un serviteur qui s'est éloigné de lui, qui est rentré dans les péchés jusqu'à en devenir fasiq, jusqu'à ce qu'il ait des péchés jusqu'au ras du cou, quand Allah veut le récupérer, en un clin d'œil, Allah le purifie et le ramène vers lui. Ça, c'est la rahmat d'Allah Azza wa Jal. Il y a un hadith qui est magnifique, qui illustre bien cette image. C'est un hadith qu'on a peut-être entendu plusieurs fois, mais parfois il faut relire, réécouter les hadiths avec un peu plus d'engagement spirituel. Lorsque le prophète alayhi salat wa salam explique que l'histoire de la situation de cet homme qui est dans le désert, vous avez compris le hadith de quoi on va parler? Yes, le voyageur qui est sur sa monture, son chameau, et que j'arrange un peu l'histoire. Il est descendu de sa monture et la monture s'est échappée. Il n'a plus de monture et avec la monture avait ses provisions, la nourriture et l'eau. Il est en plein désert. La personne est persuadée que c'est fini. Il va mourir, soit de faim, de soif ou déshydraté ou pas mangé par les bêtes sauvages ou autre chose ou de froid le soir dans le désert. Donc la personne, il s'abrite sous un arbre et il attend la mort. Il sait que c'est fini. Là, la personne peut commencer à penser à sa famille, à ses biens, à ses enfants, ainsi de suite. Ça, c'est moi qui rajoute, mais c'est ce qui se passe dans la tête d'une personne qui sait qu'il va, dans quelques instants ou dans quelques jours, mourir. Il n'y a plus d'espoir, il est dans le désert, il n'y a personne. Et au loin, quelques instants plus tard ou longtemps après, il aperçoit sa monture qui est en train de revenir. Il est tellement heureux qu'il prend sa monture et il remet à dire, « Oh Allah, merci, anta rabbi, wa ana abduk. » Non, « anta abdi, pardon. Anta abdi wa ana rabbuk. » C'est-à-dire, il inverse. Il dit, « Oh Allah, je te remercie, tu es mon serviteur, tu es mon serviteur, je suis ton Seigneur. » Il dit, « min shiddatil farah. » Il est tellement heureux qu'il ne contrôle plus ses mots. Parfois, ça nous arrive qu'on ait trop d'émotions, on inverse les mots. Le Prophète sallam, il dit ça en riant, que la personne ne contrôle même plus ses mots. Il se trompe quand il fait sa phrase. « Min shiddatil farah » Tellement il est heureux de revoir sa monture, parce que c'est comme si qu'il va renaître. C'est comme si qu'il y a une seconde chance, il va revivre. Il n'avait plus d'espoir de retrouver sa femme. Il sait que maintenant sa monture est là, il va retrouver son épouse. Il n'avait plus d'espoir de voir ses enfants, il sait que maintenant il va voir ses enfants. Il pensait qu'il allait mourir, maintenant il sait qu'il va encore vivre. Mais il lui a dit que Allah Azza wa Jal est encore plus content, Allah Rabbul Izzah est encore plus satisfait de voir un serviteur qui était dans le haram revenir vers lui que cet homme qui retrouve sa monture. Et quand Allah est satisfait de voir ce serviteur revenir vers lui, comprenez qu'Allah va le pardonner, va lui accorder son afou, son pardon, le pardon total, Tawbatul Nasuha, lui sera accordé, et Allah Azza wa Jal va l'accepter, il va le rapprocher de lui. Donc cette conclusion, elle est belle. Oui, on est dans l'erreur. Oui, on est dans le péché. Oui, malheureusement, on a du mal. Il avait donné pas mal d'exemples. Vous ne voulez pas faire trop long parce qu'il y a des signes karma qui nous attendent. D'accord? Depuis deux fois, on zappe le sujet. Mais il dit que, regardez, il y a des gens qui tombent. Lorsqu'on parle d'argent, ils chutent. Lorsqu'on parle d'un prêt bancaire, ils ne peuvent pas résister. J'ai besoin d'acheter un appartement, j'emprunte l'argent avec la banque, avec RIA, RIBA, pardon. Il y a aussi peut-être, avec RIBA, l'intérêt. J'ai besoin. Ou alors, il dit, d'autres personnes, ils vont chuter par rapport aux pulsions sexuelles. Ça commencera par le regard. S'il y a une jolie femme, il ne peut pas s'en empêcher. Il ne peut pas. Quand on le regarde, c'est impossible. Demande-moi tout ce que tu veux. Je vais faire ta toute la nuit. Mais dis pas, me regarde pas, femme. Impossible. Gay pas, il est trop bien. D'accord? Il y en a même qui vont inventer des philosophies. J'admire la grandeur du Créateur à travers ça. Elle sort là. Allez, regarde la montagne Sillaos. D'accord? Allez, regarde la plage, pas beaucoup en calotte ni la souris chaude, mais d'autres plages, d'accord? Admire la création de ton Seigneur à travers les diamants, ce qui est inanimé, ok? Mais allez, pas regarde des femmes et dire que c'est la beauté de Dieu à travers, ça c'est n'importe quoi. Ça c'est, ouais, Shaitan qui a fait un pacte avec toi ou que tu as, bref. Donc, il y a des personnes qui n'arrivent pas. Et si je me rends compte que je suis dans une de ces situations, et puis on pourrait citer d'autres catégories de péchés, hein, avec les oreilles, il y en a qui, quand ils écoutent une musique, ils ne peuvent pas s'arrêter. Hein, s'ils entendent un petit truc, ils vont écouter, ils vont télécharger, bref. Et chacun connaît ses faiblesses. Dit, quand on se rend compte qu'on a une faiblesse, qu'on ne peut pas stopper, on ne peut pas dire non, c'est que le iman, il vacille. Le iman, il est bancal. Il n'est pas ferme. n'est pas solide. C'est pas une foi qui nous permet de faire de bonnes œuvres avec sabr et de résister au haram, de résister aux waswasa, aux insufflations du diable, de shaitan. Donc il dit que malgré tout ça, n'oublions jamais qu'Allah Azza wa Jal est clément, Allah Azza wa Jal est miséricordieux. Et dans sa miséricorde, il nous a accordé le mois béni de Ramadan, il nous a accordé la nuit du destin, il nous a accordé les 6 Shawwal, il nous a accordé le jeûne du lundi, du jeudi, il nous a accordé le jeûne du 13, 14, 15, il nous a accordé également, subhanallah, donc les 10 jours de Dhul-Hijjah. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit de la hadith, donc il n'y a pas une période où les actions sont aussi aimées par Allah Azza wa Jal. Si on devait parler des vertus, il y a de soit al-fajr, wal-fajr, wal-ayalin ashr, wal-shaf'i, wal-watr, selon l'opinion de la majorité de Mufassirin, ça concerne les 10 jours de Dhul-Hijjah. Dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, inna al-ashra, non, excusez-moi, c'est Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, oui, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna al-ashra, ashrul, les 10, ce sont les 10 jours de Dhul-Hijjah, wal-witr, yawm arafa, wal-shaf'a, wa yawm al-nahr, le witr, wal-shaf'i, wal-witr, wal-watr, wal-fajj, wal-ayalin ashr, wal-shaf'i, wal-watr, oui, le watr, c'est le jour de Arafat, al-shaf'a, c'est le jour de al-nahr, le jour de al-nahr, c'est le jour où on coupe les animaux, le jour du udhiyah. Donc, dans Al-Fajr, on cite les périodes, ces trois événements importants de la première des 4 de Dhul-Hijjah. Il y a d'autres textes encore qui vont de ce sens. On va essayer de raccourcir un petit peu et aller vers un résultat. Alors donc là, déjà avec ce hadith, le commentaire de Al-Fajri, on réalise que c'est vraiment une période exceptionnelle. Il n'y a pas une période de l'année où les bonnes actions sont aussi aimées, aussi appréciées par Allah Azza wa Jal. Donc, le natija, le résultat, la réaction qu'on doit avoir maintenant, c'est d'essayer de faire le maximum de bonnes œuvres. Autant on s'organise pour la dernière des 4 du Ramadan, on doit essayer de s'organiser pour ces 10 jours de Dhul-Hijjah. La première chose à faire, excusez-moi, une des actions les plus importantes à faire durant cette première des 4 de Dhul-Hijjah, c'est as-sawm, le fait de jeûner. Alors, nous, on a intégré le jeûne du Arafat. Ça, il n'y a rien à dire, on va revenir là-dessus, Inch'Allah. Ces vertus-là, on les connaît. Mais dans d'autres textes, on a hadith de Hafsa, radiallahu anha, qui dit Arba'a, il y a 4 occasions. Lam yakun yada'ahunna Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a 4 occasions où le Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'abandonnait jamais le jeûne. Siyam Ashura, le jeûne de Ashura, ça va venir après, le Muharram, Inch'Allah. Wal Ashr, il est 10. C'est-à-dire la première décade de Dhul-Hijjah et 3 jours min kulli shahr et 3 jours de chaque mois. Ça, c'était des occasions que le prophète alayhi salatu wa salam jeûnait régulièrement. Il était l'habitude de Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, qui fait partie des Abadillah, des grands Abdullah. Des grands Abdullah parmi les Sahaba, avec Abdullah ibn Abbas et ainsi de suite. Il avait l'habitude de jeûner pendant l'intégralité de la première décade de Dhul-Hijjah. Bien sûr, le jour de Bakrid, le jour du sacrifice, on ne jeûne pas. Mais jusqu'au jour du Arafat, jusqu'au 9e inclus, il est masnoun, donc de jeûner. C'était l'habitude également de Mujahid. Qui était Mujahid? C'était le cheikh de Ibn Kathir. C'est pas n'importe qui. C'est le professeur, le cheikh de Ibn Kathir, celui qui a écrit le tafsir le plus connu dans le monde musulman, tafsir, Al-Qur'an Al-Azim de Ibn Kathir. Et grande quantité de savants, de ulama, rahimahumullah également, qui donnent de l'importance aux jeûnes durant la première décade de Dhul-Hijjah. Donc déjà, on essaie de faire l'intention. On essaie de se programmer. J'essaie de me dire que, subhanallah, c'est une occasion unique. Et si vraiment il faut donner le meilleur de soi-même, on va essayer de meubler toute la journée avec un ibadah. Et quel est le ibadah qui est le plus constant, qui nous fait obtenir des récompenses seconde après seconde? C'est vraiment le sawm, le jeûne. Donc si, inshallah, on a la force physique, on a la possibilité de le faire, faisons le niya depuis le premier de l'Hijjah jusqu'au jour de Arafat inclus, je jeûne. Ça nous fera les 9 jours, inshallah. Tout le monde fait l'intention, inshallah. Demandez doigts, ça vient pas de vous, hein. Il faut demander à Allah, oh Allah, donnez-moi le tawfiq de jeûner pendant la première décade de Dhul-Hijjah. Deuxième niveau, le fait de jeûner le jour d'Arafat. Maintenant, il ne faut pas se dire que le jour d'Arafat est très important, donc du coup, il n'y a pas besoin de faire les autres. On essaie de faire de notre mieux. Ya Ikhwani, le jour de Qiyam, est-ce qu'on ne voudra pas avoir les plus hauts degrés? Bien sûr que oui. Est-ce qu'on ne voudra pas, quand on voit qu'une personne, subhanallah, wallahi, on le dit d'une façon très, très légère, mais Allah seul le sait quelle sera la situation là-haut. Quand les gens sont ressuscités, quand on est debout, on attend le hisab, on attend la délivrance pour le croyant. Et nous voyons que, je vois que mon ami, il a déjà été appelé par Allah, et Allah Akbar, Allah Rabbul Izzah, ordonne aux anges de l'amener vers le Jannah. Est-ce que vous ne souhaiteriez pas que j'aurais aimé être avec lui, ou en même temps, pourquoi attendre encore l'angoisse de l'attendre? On aimerait être parmi les top, parmi les meilleurs, lorsqu'on voit des gens qui sont sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal, et qu'on n'y est pas. Est-ce que intérieurement on ne va pas se dire, j'aurais aimé être à la place de ces gens, c'est-à-dire al-qimma, essayer d'être au top sur le plan spirituel. Subhanallah, la personne qui va jeûner le jour de Arafat, bien. Mais celui qui va jeûner depuis le premier Dhul-Hijjah, ça c'est encore mieux, ça sera une plus grande source de récompense. Quand on sait un an le jeûne du 9e Dhul-Hijjah, le prophète alayhi salatu wa sallam dit Yawm Arafah, ihtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qabla wa as-sanata allati ba'da, hadith Imam Muslim. Par le jeûne du jour d'Arafat, j'ai espoir, ihtasibu 'ala Allah, j'ai espoir qu'Allah Azza wa Jal pardonne les péchés de l'année écoulée et de l'année qui va suivre. Donc ça c'est ajib ça. Yani, une année de péché, subhanallah, peut être pardonnée par notre Seigneur en jeûnant le jour de Arafat. Donc on doit vraiment, 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 vraiment donner de l'importance à ce jour et faire l'intention ferme de jeûner, quel que soit le jour. Même si c'est un dimanche, même si c'est je ne sais pas quel jour, on a quelque chose de programmé, on se dit que c'est la priorité. Tout comme on a donné l'importance aussi Shawwal. On s'est dit que subhanallah, en jeûnant 6 jours du mois de Shawwal, j'ai la récompense d'une année de saum, de jeûne. C'est énorme comme récompense. Et ça, c'est la promesse d'Allah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Quand Allah promet, Allah Rabbul Izzah tient sa promesse. Autant on était accroché au 6 Shawwal, on essaie de le faire. Je connais des gens, je connais quelqu'un en particulier, qui m'a dit qu'il a attendu, il a tellement perdu de temps qu'il ne restait que 6 jours. Il a dû foncer, il fallait 6 derniers jours du mois de Shawwal. Mais il l'a eu, parce que pour lui, c'était impensable de rater les 6 Shawwal. Ben autant on donne de l'importance à ces événements, on doit donner de l'importance, faire une priorité de jeûner le jour de Arafat. Parmi les actions qui sont conseillées également, al-muhafaza 'ala an-nawafil, faire en sorte de faire le maximum de salat sunnah et nafil. Inutile de préciser salat faraz bien sûr, ça on le fait toute l'année, d'accord? C'était l'habitude de Saïd ibn Jubair, hein, parmi les pieux prédécesseurs, idha dakhala 'ashra dhil-hijjah ijtahada ijtihadan hatta, il faisait tellement d'efforts lorsque la première décade de dhil-hijjah commençait que il disait même donner ses conseils la tutfi'u surajakum layali al-'ashr, il a dit pendant les nuits de la première décade de dhil-hijjah n'éteignez pas votre lumière. Yani passer la nuit en ibadah. C'est l'habitude de ses pieux prédécesseurs de passer les nuits en ibadah et les journées en état de jeûne en faisant le saum. Donc, allez, on va dire que passer toute une nuit, c'est compliqué, mais on essaie, au moins faites l'intention de faire qiyam al-layl. Le subhan sadiq, maintenant c'est quoi? Quelle heure? 4:55 à peu près? Ou 4:57 il me semble, non? À peu près, hein? Ça vient de plus en plus tôt, on entre dans le détail là. Donc, on se réveille à 4h. On se réveille à 4h du matin, on essaie de faire 2 petits rakats namal nafil avant, et ensuite on fait qiyam al-layl, on demande doua, avec cette conviction que c'est le moment où Allah Azza wa Jal apprécie le plus les actions de son serviteur. Et Allah n'a pas besoin de nos actions, bien sûr. Allah n'a besoin de personne, mais quand on fait de bonnes œuvres durant cette période, Allah Rabbul Izza est satisfait de nous. Et c'est, on va dire, le but de notre existence, qu'Allah soit content de nous. Parce qu'il y en a eu avant nous qui ont eu l'attestation de la satisfaction d'Allah. C'était les sahaba, radiyallahu anhum. Mais pour nous, ce n'est pas le cas. On n'a pas eu cette garantie de le Coran. Donc, on doit se dépasser, on doit se surmener s'il le faut, pour faire de bonnes œuvres, afin qu'Allah Azza wa Jal soit satisfait de nous. Et parmi les actions également qui sont recommandées, le dhikr, faire le maximum de dhikrullah, et donner priorité au takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, illa ilhamd. Ma soumandra n'est pas là, non, il nous aurait fait une démonstration. Très important, le takbir. C'est pas ribat, hein. On avait dit dans Bayan Jumma l'année dernière. Donc, avec beaucoup de mahabba pour lui, d'accord? Donc, le maximum de takbir. Il était même de l'habitude de Ibn Umar et Abu Huraira, radiallahu anhum, ajma'in. Ils sortaient dans les souks, dans le bazar et tout, pendant la première décade, et ils lisaient fort le takbir, et les gens répétaient le takbir. Bon, maintenant, j'ai cité exprès cette citation qui est dans Fathul Bari, commentaire Bukhari, pour montrer que tout ça c'est contextuel. Donc dans un contexte, il le faisait, tout n'est pas applicable. Je ne vais pas vous demander d'aller le clair, car on aura quelques petits soucis, d'accord. Mais donner de l'importance au takbir durant la première décade de Dhul-Hijja. Ça c'est mutlaq, le takbir durant la première décade. Et maintenant muqayyad, hein, d'accord, le takbir qui est spécifique, c'est à partir de Fajr, du jour de Arafat, jusqu'au dernier jour de Ayyam al-Tashriq. Donc là c'est les takbirs qui doivent être lus après les prières obligatoires. Hada. Et puis les autres actions importantes durant cette décade, bien sûr, c'est le Hajj, Allahu Akbar, pour ceux qui ont été invités par Allah Azza wa Jal, et pour ceux qui n'ont pas été invités, comme nous, parce que je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui voit Hajj demain, d'accord. Pour ceux qui restent, ben, il y a le Udhiyah, qu'on appelle ici le Qurbani, le sacrifice. Et on ne va pas parler de ce sujet, parce que la semaine prochaine, Inch'Allah, je m'avance un petit peu, il me semble que c'est ici, Madinatu l'Islam. Oui, il y aura un programme sur le Udhiyah, sur le Qurbani, sur le sacrifice, les règles de jurisprudence, les vertus, les récompenses. Donc c'est un programme qui va avoir lieu après la Salat al-Isha, comme on est là maintenant, mardi prochain, Inch'Allah, dans le créneau de Mufti Assad, Inch'Allah. Donc en conclusion, hein, ce cheikh nous dit que Bil Asaf, malheureusement, beaucoup de croyants, beaucoup de musulmans ne prennent pas considération de la première décade de Dhul-Hijja. Passer à côté de la première décade de Dhul-Hijja, c'est passer à côté de la bénédiction d'Allah, des cadeaux qu'Allah Azza wa Jal nous accorde, nous donne. C'est vraiment quelque chose de préjudiciable. On fait tous le niya, Inch'Allah, d'essayer de faire, de changer notre rythme de vie dès le premier Dhul-Hijja jusqu'à le Eid al-Adha, Inch'Allah. On fait tous le niya, Inch'Allah. Et puis même avec istiqama par la suite, d'accord. C'est-à-dire, on monte un peu en grade en termes de bonnes actions, en termes de résistance face au haram, d'accord. Plus de salat, plus de somme, bien sûr, plus de dhikrullah, plus de doua, on se rapproche d'Allah Azza wa Jal avec niyat, bien sûr, qu'Allah accepte, et de istiqama et de fermeté pour les périodes qui vont suivre, Inch'Allah. Qu'Allah nous accepte. Je pense qu'on a fait les 40 minutes. Non, on est à 46 minutes. Donc, bah oui, je pense que c'est la deuxième fois qu'on essaie de démarrer avec les signes après Isa al-Islam, mais ça ne vient pas. Inch'Allah, la prochaine fois, Inch'Allah, on va essayer d'y aller. Aujourd'hui, ce qui était au programme, c'était le hadith général concernant les points, on va dire les choses les plus symboliques de notre dîn qui vont être repris par Allah. On verra ça prochainement. La Kaaba qui sera repris par Allah, et que les gens ne donneront plus de son estime, ne le considéreront plus, et la Kaaba sera détruite et reprise par Allah, la pierre noire, et le Coran également qui sera repris par Allah Azza wa Jal. Et on voulait également parler des trois grands séismes à la fin des temps. Inch'Allah, dans nos semaines, on aura l'occasion d'en parler. Moi, tawfiq illa billah, qu'Allah nous accepte. Qu'Allah Rabbul Izzah donne tawfiq de comprendre les paroles, de propager à nos mères et à nos sœurs à la maison, de mettre en pratique, et que Inch'Allah nous répondrons présents parmi ces pieux serviteurs pendant la première décade de l'Hijja. Allahumma amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khair.